Très bien, 1, 2, oui, on nous entend, c'est super. Bonjour à tous et à toutes, nous sommes très heureux de vous accueillir à cette table ronde qui a pour thème la notion des biens communs de la connaissance. On va essayer de réfléchir et de voir en quoi cette notion peut être un levier pour porter de nouvelles actions auprès des bibliothèques publiques et les bibliothèques en général. Je vais tout d'abord vous présenter nos deux intervenants qui participent à cette table ronde. Il y a tout d'abord Sylvain Mercier, qui est chargé des innovations et de la médiation numérique à la BPI. Et en bout de table, il y a Thomas Fourmeux, pardon, qui est assistant multimédia au sein du réseau des bibliothèques d'Aulny-sous-Bois. Je tiens, on va le préciser tout de suite, à préciser que mes deux collègues et moi-même intervenons ici en tant que membres du collectif Savoir commun et non pas au nom des différentes collectivités ou autres associations auxquelles nous participons. Avant de commencer, on va peut-être donner la parole à Sylvain qui prendra la parole pour la première partie de cette table ronde. Juste peut-être indiquer que le collectif Savoir commun que Sylvain va un petit peu vous présenter est un collectif qui rassemble à peu près 85 membres aujourd'hui, qui viennent aussi bien des professionnels de la formation de la documentation, mais aussi il y a des auteurs, il y a des éditeurs, enfin de manière un peu plus générale, des journalistes, je crois, me semble-t-il, oui. Et que ce collectif se propose de mener une réflexion et de porter une action autour des biens communs de la connaissance. Et notamment milite pour que des politiques publiques se prononcent et se portent garantes du respect d'un des droits fondamentaux du citoyen, qui est de l'accès au savoir et à la formation, et d'autant plus à l'heure du numérique. On va essayer en 1 heure de brasser toutes ces notions. C'est court parce que ça brasse énormément d'éléments. On va essayer d'organiser ça en 3 temps. Dans un premier temps, on va essayer de définir ce qu'est cette notion de bien commun de la connaissance, hein, ou du savoir. On vous présentera d'ailleurs le manifeste que porte le collectif autour de cette notion. On verra dans un second temps en quoi aujourd'hui, et notamment à l'émergence du numérique, ces biens communs du savoir et de la connaissance sont mis en difficulté, sont mis en danger, leur accès. Et puis, dans un dernier temps, on essaiera de voir en quoi les bibliothèques peuvent participer aujourd'hui à la fois à la diffusion et à la production même de ces biens communs du savoir, à travers quelques exemples assez concrets qui ont été développés dans des bibliothèques. Et c'est Thomas qui se chargera de nous les présenter. C'est une table ronde. Vous pouvez, bien évidemment, on va essayer de vous donner un espace. Tu peux aller t'installer si tu veux, Sylvain. On va essayer de donner un espace, hein, pour l'échange. Donc, bien évidemment, si vous désirez intervenir, poser une question pendant le propos, hein, de la table ronde, n'hésitez pas à y lever la main. Nous vous donnerons le micro et nous pourrons alors échanger. Et puis, on prendra un temps aussi en fin de séance pour pouvoir répondre aussi aux questions. Très bien. Il y a un micro, voilà, super. Il y aura un micro à votre disposition qui est au fond de la salle. Très bien. Sylvain, premier temps, les biens communs du savoir et le manifeste autour du savoir commun.
Bonjour. Donc, merci à l'ABF, hein, pour cette invitation qui me semble importante. On va parler effectivement du collectif Savoir commun, mais on est là avant tout pour essayer de vous faire comprendre ce qui se cache derrière la notion même de bien commun de la connaissance. L'enjeu aujourd'hui, c'est d'arriver à cristalliser un certain nombre de problématiques sociétales qui sont souvent posées dans des champs traditionnels qui sont soit le numérique en tant que tel, le secteur numérique, soit le secteur culturel. Les biens communs, et j'espère que vous en serez convaincus après que je précise un petit peu les choses, ont l'immense avantage de présenter les choses de manière synthétique, en sortant de ces carcans sectoriels et en ayant une approche qui est très transversale. Alors, simplement un tout petit historique. Je commence par la fin, je commence par les références, simplement pour vous dire aussi que ce collectif et ces questionnements autour des biens communs de la connaissance ont été très bien synthétisés, et c'est sur ces bases-là qu'on est parti pour créer et pour, disons, mener des actions sur les biens communs de la connaissance à partir de ce livre, Libre Savoir, publié par quelqu'un qui est très bien connu des bibliothèques, puisque c'est Hervé Lecronier hein, qui a publié ce livre collectif, qui est un recueil d'articles dont bon nombre existaient en anglais, et qui est un des rares, peut-être même un des seuls livres sur le sujet en France aujourd'hui. Donc je vous invite à l'acheter dans vos bibliothèques et en tout cas à le consulter, à le connaître. Il n'existe pas encore sous forme numérique, mais ça ne saurait tarder. Alors rentrons dans le vif du sujet. Qu'est-ce que c'est que les biens communs de la connaissance? C'est assez simple à comprendre finalement. Et les biens communs de la connaissance, c'est l'association de trois éléments qui doivent toujours aller ensemble. C'est-à-dire un élément qui va caractériser une ressource, quelque chose qui est donc produit, et quelque chose qui est produit quand on parle des biens de la connaissance de manière informationnelle. Donc du code source d'un logiciel, un écrit, des données, c'est une ressource informationnelle. Simplement, à la différence de ce qu'on fait traditionnellement dans les bibliothèques, l'approche des biens communs vise à ne jamais séparer l'association étroite entre cette ressource et l'organisation, la communauté qui va gérer son maintien et qui va faire en sorte qu'elle perdure, qu'elle soit entretenue, qu'elle soit développée. Et pour ce faire, cette communauté doit s'organiser et donc définir une gouvernance. Et donc ces trois éléments qui sont associés permettent d'avoir une approche qui est une approche intégrée et de ne jamais séparer donc, la gestion de la ressource elle-même. Alors l'approche par les biens communs, hein, pour faire un petit historique, c'est une approche qui a été promue essentiellement par quelqu'un qui s'appelle Elinor Ostrom, qui est une chercheuse qui a eu le prix Nobel en économie en 2009, ce qui a en fait propulsé la question des biens communs sur le devant de la scène intellectuelle, alors que jusque-là, on avait tendance, notamment depuis les années 70, à considérer que finalement, il y avait toujours deux alternatives pour la gestion de ces ressources. Et quand on parle de ressources, on parle aussi, quand on parle des communs en général, en dehors de la connaissance, des communs de la nature, c'est-à-dire de l'eau, de l'air, et des ressources qui sont des ressources écologiques. Et l'approche qui était dominante avant celle des biens communs, c'était la gestion publique ou alors la gestion privée. Et Elinor Ostrom a montré que qu'au-delà de ces deux approches, donc, il y avait des communautés qui pouvaient tout à fait avoir une gestion efficace et une préservation de ces ressources, qui n'étaient pas forcément uniquement donc, des ressources informationnelles, par une auto-organisation et par finalement des règles qu'elles se fixent elles-mêmes. Et c'est donc pour ça que finalement il y a un peu deux approches hein, qui sont celles des biens communs, c'est les biens communs de la connaissance et les biens communs, disons, matériels, c'est-à-dire aussi bien une rivière, un potager, une machine-outil, une semence. Et donc aujourd'hui, finalement, les biens communs ont l'immense avantage, je le disais, de casser une sectorisation d'un ensemble de politiques qui sont liées à ces ressources et qui, du coup, cherchent à rapprocher des logiques qui sont des logiques de l'écologie en général, des logiques qui viennent du numérique et du logiciel libre en particulier, et puis des logiques de pure gouvernance qui sont souvent des logiques qui sont expérimentées dans le cadre de l'économie sociale et solidaire. Et donc l'approche bien commun permet finalement de mettre un trait d'union entre ces différents éléments. Alors, toujours important à concevoir, et on verra que ça a des traductions assez concrètes dans les bibliothèques, l'idée est systématiquement donc qu'il faut qu'il y ait une communauté. Communauté qui développe un bien commun. Alors, l'exemple typique dans le cas des ressources informationnelles, c'est Wikipédia. Wikipédia est un bien commun de la connaissance parce que, contrairement à ce qu'on peut penser parfois, Wikipédia est très structuré au niveau d'une communauté qui a des règles de gouvernance très précises et qui vise précisément à entretenir, à développer et à faire perdurer cette ressource. Important aussi de dire que dans cette auto-organisation, il ne s'agit pas simplement de créer une ressource, mais bien aussi de la protéger. C'est la communauté elle-même qui, dans son organisation, va définir des règles d'exclusion pour des usages qui sont non souhaités pour cette ressource. D'où le lien très fort qu'il existe entre l'approche par les biens communs et les approches juridiques qui visent par des licences à déterminer des conditions d'utilisation de ce qui est créé au niveau informationnel. C'est l'exemple des licences Creative Commons qui finalement sont une manière de réguler l'usage d'une ressource. En deux mots, les licences Creative Commons permettent d'apposer un certain nombre de critères et de caractéristiques à l'usage d'une ressource. Il faut citer l'auteur, il faut ou pas faire un usage commercial, il faut ou pas faire une opération de partage à l'identique sur laquelle je reviendrai un tout petit peu plus tard. En tout cas, ces conditions sont définies a priori et sont donc situées et tout à fait importantes. Voilà, donc on parle donc aussi de gouvernance, de règles informationnelles, de règles, pardon, de formelles, c'est ça que je voulais dire, et donc d'une gouvernance des communs qui est importante. Alors attention aux faux amis, parce que c'est vrai que la notion de bien commun a tendance à devenir un petit peu mainstream, comme on dit, et beaucoup d'hommes politiques et de femmes politiques se réclament des biens communs. Attention, les biens communs ne sont pas les biens publics. On ne parle pas du service public quand on parle des biens communs. Et on ne parle pas non plus des biens publics au sens, disons, économique des biens publics, qui sont des biens qui sont rivaux et excluables. Voilà. Bon, je vous passe sur les détails, mais l'idée, c'est de dire que les biens communs ne sont pas les biens publics et sont une zone qui est régulée. Ce n'est pas non plus le bien commun. Hein, ne pas confondre les biens communs avec le bien commun, parce que le bien commun tend non pas forcément vers le service public, mais vers l'intérêt général. Donc, les notions de service public et de bien commun ne se recoupent pas systématiquement. Toute la question et tout l'enjeu justement qu'on a essayé d'aborder dans ce collectif, c'est de savoir comment les trois sphères, la sphère privée, la sphère publique et désormais cette nouvelle sphère un petit peu intermédiaire, viennent s'articuler les unes aux autres dans un but qui est un but en général orienté vers la diffusion des connaissances et la libre circulation des savoirs de manière générale pour les ressources bien communs informationnelles. Alors, le collectif Savoir Commun, c'est donc une initiative qui a un petit peu moins d'un an, qui est une initiative récente, qui est une initiative qui visait finalement à sortir le numérique d'une approche qui est, comme je le disais au départ, une approche sectorielle. Il ne s'agissait pas de s'intéresser aux biens communs et aux biens communs dans le cadre des bibliothèques, ou au numérique dans le cadre des bibliothèques, mais d'avoir finalement une approche extrêmement transversale pour finalement placer les bibliothécaires dans un contexte politique, dans un contexte, disons, idéologique, dans lequel ils appliquent des politiques publiques qui elles-mêmes peuvent soutenir ou favoriser le développement des biens communs de la connaissance. Vous voyez que l'approche, elle n'est pas sectorielle, mais elle part de cette notion de ressources et d'entretien et de développement de ces différentes ressources. Alors, les membres du collectif, comme il a été dit, sont des gens qui viennent d'horizons divers. Hein. On a des gens qui travaillent dans les universités, dans les bibliothèques, évidemment, dans le domaine de l'éducation. On a des consultants, on a des journalistes. C'est extrêmement varié et c'était assez volontaire au départ. On a souhaité aussi avoir une attention très particulière à notre gouvernance, parce qu'évidemment, parler de bien commun sans tenter de l'expérimenter dans l'organisation même qui la défend, ça n'aurait pas beaucoup de sens. Donc on a essayé de définir un certain nombre de règles sur lesquelles je vais pouvoir développer un petit peu après, mais on a souhaité aussi se raccrocher à une initiative qui essaye de faire l'équivalent des licences Creative Commons pour les organisations et pour les projets. Et cette initiative s'appelle Move Commons, et elle définit un certain nombre de critères hein, sur le même principe que les Creative Commons, sauf que ça s'applique à des projets. Et donc, par exemple, nous, on a choisi, dans les critères proposés, que notre organisation est à but non lucratif, que tout ce qu'on fait peut être reproductible, ça veut dire que tout ce qu'on fait est documenté et doit pouvoir être réutilisable par quelqu'un d'autre. Donc on est dans une logique de partage, y compris au niveau de nos bornes d'organisation. Les biens communs numériques, ça c'est plus un critère de catégorisation, et puis une organisation horizontale, et ça c'est extrêmement important pour nous de sortir d'une gouvernance qui est précisément la gouvernance de l'ABF, une gouvernance classique associative avec un fonctionnement pyramidal. Nous, on souhaitait expérimenter un fonctionnement, alors il n'y a pas forcément d'opposition, hein, mais c'est simplement pour dire que l'organisation horizontale vise à favoriser l'implication et le projet beaucoup plus que le statut associatif au sens de l'appartenance à un bureau qui validerait les actions menées par d'autres. Notre idée, c'est plutôt d'avoir des gens qui se mettent d'accord sur un certain nombre d'actions et puis qui agissent et qui, à partir du moment où ils agissent, eh bien, ils sont légitimes pour prendre des décisions relatives à cette action, étant entendu que nous n'agissons pas dans le vide, mais nous agissons dans le cadre d'un manifeste que nous avons écrit avec des thématiques qui sont extrêmement précises et claires pour donner un cap. Et c'était l'idée de dire que finalement, les gens de savoir commun, le collectif, eh bien, se déploie autour d'un certain nombre de thématiques que je vais préciser. Alors, les thématiques, vous les voyez ici, il y en a 10 en tout, et elles sont bien au-delà, évidemment, des bibliothèques, mais elles recoupent l'activité des bibliothèques. Et elles visent, non pas à dire qu'il faut défendre des biens communs qui seraient en danger, mais elles visent plutôt à dire quelles sont les actions qu'il faut qu'on fasse, quelles sont les causes qu'il faut qu'on défende, pour que finalement notre action en tant que bibliothécaire, puisqu'on est dans ce cadre-là, puisse se faire dans le cadre de politiques publiques qui permettent le développement et l'épanouissement d'un certain nombre de biens communs de la connaissance. Donc la première condition, par exemple, ce qui nous semble à défendre absolument et sur lequel on peut se mobiliser, c'est le fait que l'Internet soit neutre et que donc on puisse travailler sur un espace où l'innovation n'a pas à être validée par qui que ce soit pour faire des initiatives. C'est la racine de l'Internet. Deuxième élément, j'ai eu l'occasion d'en parler ce matin, la protection des données personnelles doit être un élément de lutte contre des enclosures, on va y venir un petit peu après. Hein. Voilà, je cite les autres éléments. La question de la science ouverte nous intéresse également, de l'accès libre aux publications, ça c'est une thématique qu'on connaît bien dans les bibliothèques. La question des ressources éducatives libres nous semble extrêmement importante et peu posée aujourd'hui. On parle beaucoup d'open data, on parle peu de ce qu'on appelle l'open content, donc le contenu ouvert qui sera bientôt, je pense, expérimenté par l'éducation nationale en particulier. Et l'ouverture des données publiques dans certaines conditions que j'aurai peut-être l'occasion de développer un petit peu après. Voilà les 5 premiers points. Les points d'après sont les suivants. Les logiciels libres nous intéressent, mais pas dans le vide. Encore une fois, les logiciels libres ne sont intéressants que s'ils sont appropriés par une communauté qui, finalement, va en gérer le développement. Et on est face à un bien commun typique. D'ailleurs, l'existence même des biens communs, la notion de bien commun, elle est directement issue du monde du logiciel libre, où finalement des communautés se sont mises à entretenir ces ressources informationnelles que sont les lignes de code informatiques. Élément numéro 7, c'est le partage des œuvres non marchands. Alors ça, c'est une thématique tout à fait importante. Nous, on part de la situation fait en sorte que les œuvres peuvent se partager librement. Et évidemment, contrairement à un certain nombre d'acteurs, et ça, les bibliothécaires le comprennent assez bien en général, plus les choses se partagent, plus on est content, puisque plus les biens communs peuvent se développer, se déployer, et des ressources informationnelles peuvent se développer. Donc la question du partage non marchand ne nous semble absolument pas à opposer aux échanges marchands, mais au contraire viennent s'y articuler. C'est un combat qui est très important, en particulier dans le domaine du livre numérique, par exemple, pour les bibliothèques. Et il nous semble tout à fait important de rémunérer la création, mais pas sur des critères qui sont ceux du strict rémunération par une offre uniquement marchande. Donc nous, ce qu'on défend, c'est la question de la légalisation du partage non marchand. Voilà. La question du domaine public, évidemment, est intéressante. Le cas du domaine public est particulier parce que le domaine public en soi n'est pas un bien commun. Pourquoi est-ce que ce n'est pas un bien commun ? Parce que ce sont donc des œuvres qui sont par nature libres de droit, mais qui ne sont pas forcément appropriées au sens où elles sont détournées, remixées, republiées. À partir du moment où elles sont effectivement remixées, republiées, mises en avant, appropriées par des individus, eh bien, elles deviennent une ressource informationnelle. Donc finalement, le domaine public, on le défend en tant que socle d'un ensemble de biens communs potentiels. Et on ne le défend pas en tant qu'un patrimoine comme ça qu'il nous faudrait défendre parce que c'est le patrimoine. Il nous semble que c'est une défense qui est tout à fait importante au sens où il faut qu'on s'approprie les œuvres du domaine public et au sens où ce potentiel d'appropriation est de nature à favoriser l'émergence et le développement des biens communs de la connaissance.
On le défend pas seulement que patrimoine.
Oui.
Voilà, c'est de donner l'impression qu'on ne défend pas, on ne défend
non.
pas le voilà.
Oui.
Pas seulement.
Pas seulement. Voilà. La notion qui est importante aussi, c'est la numéro 9. C'est placer les biens communs au cœur des modèles économiques de, la, de l'information. Et nous, par exemple, il nous semble inapproprié et dangereux et déplacé de parler systématiquement de chaîne du livre à l'heure du numérique. Parce que le livre numérique et l'information s'organisent en écosystème et la valeur économique, elle est retirée d'acteurs qui savent exploiter une valeur qui s'organise en écosystème. Pour le pire comme pour le meilleur. Pour le meilleur, dans le cadre des logiciels libres ou la ressource informationnelle, même s'il y a un modèle marchand par la vente de compétences qui se développe, est une activité économique. Et pour le pire, pour un acteur comme Amazon qui contrôle l'ensemble de la chaîne, organisé certes en écosystème, mais qui finalement tire des revenus de plusieurs activités autour de la ressource informationnelle. Donc nous, il nous semble absolument négatif de parler d'une chaîne du livre à l'heure du numérique, mais on doit plutôt parler de livre numérique au sens d'une activité qui vendrait non pas forcément des objets informationnels, mais plutôt des services autour du développement de ces objets informationnels. Et c'est pour ça que la notion de prêt numérique nous pose problème, parce qu'elle repose sur un objet numérique qui s'appelle livre numérique, qui est donc prêté. Et il nous semble que cette approche n'est pas la bonne et qu'on devrait avoir accès à des ensembles de connaissances qui soient valorisé par des services qui soient construits autour. Alors, je n'ai pas le temps de développer malheureusement cette question, mais c'est l'idée globale. Voilà, c'est l'idée aussi de dire que finalement, l'approche, si vous voulez un exemple plus précis, c'est celle de revue.org qui, dans son modèle destiné aux bibliothèques, ne va pas vendre le contenu qui reste toujours accessible en ligne, mais va vendre les services attachés à ce contenu. Et donc, les bibliothèques devraient dire à des prestataires, on est d'accord pour acheter des services, mais arrêtez de nous vendre des contenus, parce que ces contenus doivent se déployer librement pour devenir des biens communs de la connaissance. Voilà pour les points du manifeste. Sur la gouvernance, je finis.
Très rapidement, j'aimerais qu'on puisse parler un peu de la notion d'enclosure, qui est un élément important pour nous, les
Ça
bibliothèques.
Alors, un collectif qui est accessible librement, il n'y a pas d'adhésion, il n'y a pas de structure juridique, on n'est pas une association, on est un regroupement d'individus qui acceptent le manifeste, évidemment, et qui acceptent donc de défendre un certain nombre des positions, toutes les positions qui sont dans ce manifeste. Et à partir de là, eh bien, on construit des actions, et donc on a un certain nombre d'organisations, d'outils, qui sont que des outils qui nous permettent de gérer ces différentes actions. Un principe important qui nous semble aussi tout à fait efficace aujourd'hui, c'est de dire qui ne dit mot consent. C'est-à-dire que la prise de décision n'est légitime que par ceux qui s'impliquent dans un projet. Si on ne dit rien, même si on a... alors, ça fonctionne parce qu'on a une organisation horizontale. Si on avait une organisation verticale, vous voyez la différence, il faut toujours avoir l'accord de celui qui a une légitimité par l'organisation pyramidale. Ici, la légitimité se fait par l'action et ça nous semble tout à fait important. Et puis ensuite, on définit ensemble des priorités en fonction des actions qui ont été proposées par les membres dans le cadre du manifeste.
Ouais. J'aimerais que donc, on a essayé de donner une définition positive des biens communs de la connaissance. Je pense que maintenant, pour que ça soit un peu plus tangible, on va dire, plus concret, j'aimerais que tu nous donnes quelques éléments. On parle d'enclosure, qui sont donc des dispositifs qui mettent des freins à l'accès aux biens communs du savoir. J'aimerais que tu nous donnes quelques exemples, en tous les cas, quelques démarches, et voir qu'on a plutôt le sentiment que dans un premier temps, que les enclosures, les limites que l'on met à l'accès aux biens savoir émanent d'un espace qui serait celui marchand. Et puis, en fait, quand on réfléchit un tout petit peu, on s'aperçoit que même des acteurs publics mettent des enclosures, hein, mettent des limites dans l'accès du savoir. Et on voit donc que la limite privée-public n'est pas si simple. Tu peux nous éclairer un tout petit peu là-dessus ?
Avec plaisir, Lionel.
Je t'en prie.
Un des objectifs, j'en parlais à l'instant, c'est d'éviter ce qu'on appelle les enclosures. D'ailleurs, enclosure, ce n'est pas un mot anglais, contrairement à ce qu'on pense souvent. C'est un mot qui est tout à fait français, qui est ancien, qui est peu utilisé et qui signifie... le fait d'enclore et donc d'empêcher des usages de biens communs de la connaissance. Et donc on est très proche des notions de silo d'information. Pour vous donner un exemple juridique, moi j'aime bien cet exemple du Huffington Post, vous savez ce journal, ce média en ligne extrêmement fréquenté aux États-Unis, avec donc Anna Huffington qui avec son équipe a construit tout un écosystème à partir de contributions d'acteurs volontaires de l'Internet, donc d'internautes qui étaient intéressés par un sujet et qui allaient publier dans le Huffington Post. Sauf que évidemment, dans les conditions générales d'utilisation du Huffington Post, il est inscrit « Nous avons tous les droits sur votre site et sur son contenu, et lorsque vous nous soumettez un contenu, vous nous accordez certains droits. » Et ces certains droits sont une enclosure, puisque les contenus sont captés pour être finalement revendus. Et c'est ce qui s'est passé quand Huffington Post a été racheté par AOL en 2011 pour 315 millions d'euros. Il y a eu un procès d'un certain nombre d'internautes qui se disent « Nous avons contribué à la création de cette valeur. Quelle est la contrepartie qui est la nôtre ?» Et on pourrait multiplier l'exemple, évidemment, les réseaux sociaux comme Facebook, l'enjeu des données personnelles, sont des questions d'enclosure de quelque chose qu'il nous faut absolument, pour lequel il nous faut absolument définir une gouvernance y compris politique, et évidemment, c'est pour ça que la question des données personnelles est importante. On mesurera la différence entre cette enclosure totale des contenus qui sont finalement confiés à une entreprise qui va le valoriser, avec l'exemple que je prenais tout à l'heure, qui est celui de Wikipédia. Vous le savez ou pas, que la licence de Wikipédia est une licence Creative Commons assez particulière, qui est la licence BY SA, c'est-à-dire BY, c'est l'attribution. Il faut citer les auteurs d'un article de Wikipédia. En général, il faut renvoyer d'ailleurs à la page des contributeurs sur un article, quand on veut citer la source en bonne et due forme. Mais surtout, la notion de partage à l'identique. Cette notion, elle est tout à fait importante parce qu'elle consiste à dire que finalement, ce que vous prenez dans un pot commun qui est en libre accès, si vous le modifiez, vous devez remettre le fruit de vos modifications dans le pot commun. Et cette notion de contrepartie à ce qu'on vient chercher dans un espace libre d'accès qui est celui d'Internet, elle nous semble extrêmement importante et elle nous semble à promouvoir.
Si je peux me permettre, ça c'est important parce qu'une bibliothèque, les bibliothèques sont de plus en plus productrices de contenu. On va faire des choses toutes simples, on fait des critiques de livres, on va faire un dossier documentaire. C'est important lorsqu'une bibliothèque veut se positionner dans une société du savoir qu'elle puisse attribuer une licence telle que celle-ci, partagée à l'identique, c'est-à-dire que nous, agents publics, nous avons travaillé et avons produit un bien du savoir et nous reversons ce bien du savoir, à la communauté en associant une licence telle que celle-ci avec partage à l'identique. Alors qu'on voit que quelquefois, il y a des collectivités dans lesquelles, mais souvent, ce n'est pas du tout du fait des bibliothécaires, mais on voit que, par exemple, des collectivités, un service communication, on va mettre du copyright derrière ou une demande d'autorisation préalable pour pouvoir réutiliser un contenu de bibliothèque. Je parle de contenu produit par la bibliothèque, pas des contenus qu'elle met à disposition sur lesquels elle n'aurait pas elle-même les droits. Donc on voit bien que déjà là, c'est un positionnement en faveur des biens communs, du savoir et de la connaissance. Voilà.
Et ce qu'il faut absolument souligner aussi, c'est qu'il s'agit de sortir, et c'est la clé, en fait, c'est une des clés, cette condition, pour sortir d'une opposition frontale entre marchands et non-marchands, puisqu'il est tout à fait possible de mettre à disposition des ressources informationnelles tout en permettant un usage marchand, à condition que le marchand, qui va produire une valeur économique, mais qui va la produire à partir d'une ressource informationnelle, permette d'enrichir et de libérer les contenus qui ont été créés dans le cadre de cette opération. Pour prendre un exemple précis, par exemple, c'est ce qui permet le déploiement d'un écosystème économique autour de Wikipédia. On ne va pas acheter Wikipédia pour le mettre dans une application mobile et vendre l'application mobile parce qu'on vend Wikipédia. On vend finalement l'accès et on vend un service qui vient se situer au-dessus de l'accès libre à la connaissance et des contenus de Wikipédia. Personne ne peut finalement acheter les contenus de Wikipédia. Par contre, on peut construire un écosystème. C'est l'exemple ici de cette petite application qui est vendue sur l'App Store. Il y en a des centaines qui sont dans ce cas-là.
J'aurais voulu quand même que tu nous parles de phénomènes d'enclosure autour des ressources numériques qui peuvent être disponibles en bibliothèque. En quoi la mise à disposition de ces ressources peuvent présenter les caractéristiques d'enclosure ?
D'accord, Lionel.
Je t'en prie.
L'enclosure caricaturale, la pire, c'est celle du prêt numérique. Pourquoi? Parce que le rôle des bibliothèques, c'est bien de favoriser la mise en relation de communautés d'apprentissage ou de communautés de personnes avec des contenus qui peuvent les intéresser. Or, le prêt numérique transpose dans l'environnement physique, dans l'environnement pardon, immatériel, une pratique d'environnement physique. Et finalement, va employer la notion d'exemplaire unique, ce qui va finalement être dans une logique descendante de mise à disposition d'une ressource, et évidemment non pas de libre accès à cette ressource qu'on va pouvoir partager ensuite et qu'on va pouvoir, à partir de laquelle on va pouvoir construire. On ne peut rien faire à partir d'un livre numérique. Or, l'enjeu des biens communs de la connaissance, c'est de dire que finalement, l'information qu'on met à disposition, elle doit être le socle du développement d'autres biens communs de la connaissance. On est toujours dans la logique d'un cercle vertueux, et donc une mise à disposition temporaire protégée sur laquelle on ne peut en général pas faire de copier-coller, et donc on ne peut pas s'approprier, qui est la première, le première brique de la construction de la connaissance, ça nous semble complètement problématique. C'est le cas aussi... c'est le cas aussi de ce qui se pose par rapport au patrimoine. Vous savez qu'on a eu une grosse mobilisation autour de la privatisation du domaine public qui a été menée par la Bibliothèque nationale de France dans le cadre du grand emprunt national qui finalement amplifie et rend spectaculaire une pratique qui est finalement une pratique assez répandue d'enclosures qui ne sont pas des enclosures commerciales comme celle de Numilog, où finalement, pour des raisons économiques et parce que le modèle n'est pas bien repensé par rapport au numérique, on fait du prêt numérique. Là, on est dans une logique où finalement, l'existence... Alors, c'est plutôt ce... Voilà, ce slide-là. La plupart des bibliothèques qui mettent à disposition des fonds patrimoniaux vont finalement recréer une couche de droits supplémentaires sur des œuvres qui font pourtant partie du domaine public. Rappelez-vous, si on défend le domaine public, on défend son libre accès et le socle qu'il peut constituer, et donc le socle à partir duquel on peut construire des contenus. Si les bibliothèques qui numérisent le patrimoine et qui donc favorisent cette mise à disposition et donc favorisent sa dissémination et donc favorisent les biens communs, empêchent les usages liés à la numérisation par des couches de droits, eh bien, ça nous pose de graves problèmes et ça peut être des enclosures qui sont plus ou moins graves, qui sont souvent de nature juridique. Alors, on peut passer outre quand c'est des choses qui sont de nature juridique, même si on enfreint quelque chose quand on le fait. On ne peut pas passer outre quand l'exclusivité est transmise à un partenaire commercial dans le cadre d'accords qui sont négociés de manière opaque. Et c'est ce qu'on a dénoncé et c'est ce qu'on a été raconté comme problématique aux députés dans le cadre de l'audition que nous avons eue auprès de la commission des affaires culturelles de l'Assemblée nationale. Donc voilà le type d'action que nous menons. Et vous voyez que finalement, quand on a créé ce collectif, on s'attendait finalement à avoir des adversaires plutôt de nature commerciaux. Et en fait, on s'aperçoit que c'est cela même dont c'est la mission de rendre accessible le patrimoine qui finalement... pour des raisons économiques qu'on pourrait discuter longuement, et je répondrai aux questions si vous en avez, eh bien, vont aller à l'encontre de leur mission, et en particulier la Bibliothèque nationale de France.
Pour être très concret, hein, sur le domaine public numérisé, donc domaine public, donc, qui appartient à tous, on numérise le domaine public, on le met à disposition, et on met une couche d'autorisation préalable. Il faut demander l'autorisation de pouvoir utiliser le document numérisé. Donc là, il y a une enclosure, alors qu'au départ, il n'y en avait pas.
Il y a une enclosure, et une enclosure qui finalement aussi, et souvent, hein, c'est le cas dans 88% des mentions légales des bibliothèques, qui finalement vont interdire les usages commerciaux. Alors on peut se dire, c'est normal, service public et tout, mais en fait, non. Parce que si le domaine public est libre, il est totalement libre, y compris pour des usages commerciaux. Et donc, si on voulait... donc ça, c'est pour la question du domaine public, mais y compris pour des fonds qui seraient sous droit, finalement, l'enjeu, c'est d'avoir des licences qui n'opposent pas commerciales ou non commerciales, mais qui soit libèrent les droits parce qu'il s'agit du domaine public, soit mettent des conditions qui sont des conditions qui favorisent les cercles vertueux, et c'est la condition de partage à l'identique que j'évoquais tout à l'heure. Un dernier petit exemple par rapport à ça, c'est à propos des questions d'open data. Vous savez qu'on parle énormément d'open data aujourd'hui. Notre point de vue, c'est celui-ci. Et si on considérait les données publiques ouvertes comme des biens communs? Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que sous la pression d'un certain nombre de groupes industriels qui voient dans l'open data un Eldorado économique, les réponses juridiques, et donc les réponses de gouvernance de ces biens communs qui sont créés par les services publics et donc mis à disposition, eh bien, sont des gouvernances qui sont totalement ouvertes dans n'importe quelle condition. La licence officielle, la licence ouverte, d'ailleurs elle s'appelle licence ouverte, c'est une licence qui a été créée par un organisme qui s'appelait Etalab, et qui permet tous usages, y compris à des fins commerciales, sans que les acteurs privés, ou les acteurs publics d'ailleurs, n'aient l'occasion de reverser la valeur ajoutée qu'ils ont produite dans un pot commun. Et donc nous, ce qui nous semble problématique, et on a interpellé plusieurs fois les acteurs, les pouvoirs publics sur cette question-là, eh bien, c'est de promouvoir d'autres types de licences qui obligent le privé qui peut construire son modèle économique, mais il va le construire sur les services, sur l'accompagnement par rapport à ces données, sur la gestion de ces données, sur ce qu'il veut, à une condition, c'est que finalement, ce qu'il a pris au pot commun, il puisse l'y remettre à un moment donné. Et vous voyez qu'on n'est pas du tout dans l'opposition marchand-non-marchand, il est de dire favorisons des cycles économiques, des modèles économiques qui soient absolument vertueux et qui ne soient pas des phénomènes de captation de ressources qui ont été créées pourtant dans le cadre des services publics.
Très bien, merci. Thomas, le temps que tu t'installes, donc on a bien eu cette notion de bien commun, on voit cette notion d'enclosure, on voit que les enclosures peuvent émaner de l'espace marchand. On achète un livre sur une plateforme, livre numérique sur une plateforme d'achat, et puis je m'aperçois qu'il y a un DRM et qui m'oblige à avoir tel outil pour pouvoir lire un livre numérique. C'est une enclosure. On m'empêche de... Je ne peux pas, à titre personnel, prêter un livre numérique. Je ne peux pas le léguer. Je ne peux pas le donner. Alors qu'avec un livre tangible, c'est des choses absolument naturelles. On voit que dès qu'on bascule dans un univers numérique, ces usages-là ne sont empêchés. On voit que même donc, certaines bibliothèques qui numérisent du domaine public rajoutent une couche pour empêcher justement la réappropriation de ce, bien, de ce domaine public-là. On voit qu'il y a, avec l'émergence du numérique, une remise en question de cet accès. On va voir que les bibliothèques peuvent se positionner pour promouvoir et pour faciliter la diffusion. On a vu tout à l'heure l'exemple de mettre ces contenus produits par la bibliothèque sous des licences libres de droit avec partage à l'identique. C'est déjà contribuer, d'une part, à la société du savoir et de l'information, étant comme un acteur qui produit de l'information, mais c'est aussi permettre la diffusion et la réappropriation de ces contenus. Alors Thomas, tu vas nous donner des exemples d'actions que peuvent mener les bibliothèques publiques, ou même universitaires, je ne sais pas pourquoi je dis que publiques, pour la diffusion de ces biens communs. À toi.
Merci. Bonjour à tous. J'en profite pour remercier l'ABF de nous avoir invités pour venir parler des biens communs. Et maintenant que vous êtes tout à fait au point sur la question des biens communs et sur cette notion-là, on va passer à une étape un peu plus concrète et voir comment nous, en tant que bibliothécaires, on peut être acteurs de la question des biens communs et mettre en avant, et promouvoir justement ces ressources en tant que professionnels des bibliothèques. Alors, la première question sur laquelle j'aimerais bien revenir, c'est la question d'Internet. Internet en bibliothèque, mais Internet de façon générale, peut vraiment se concevoir comme un bien commun dans la mesure où sa conception, son origine a été vraiment pensée pour que ce soit une ressource accessible à tous, sans barrière, sans contrainte, sans verrou, sans aucune discrimination. Et bien évidemment, il y a des acteurs, des opérateurs qui nous permettent d'accéder à Internet, mais ça suffit pas pour qu'ils s'en revendiquent les propriétaires. Personne ne peut dire « je suis propriétaire d'Internet, donc c'est à moi, j'en fais ce que je veux et je vous impose les conditions pour y accéder ». Donc c'est important pour nous, comme l'a dit Silver, de défendre la question de la neutralité du net, parce que en tant que bien commun, il faut que tout le monde puisse pouvoir en bénéficier et surtout accéder aux ressources disponibles sur Internet qui constituent elles-mêmes des biens communs, notamment tous les contenus produits sous licence libre, etc., qui ont un potentiel de biens communs et qu'on peut s'approprier et mettre en avant en tant que bibliothécaire. Et c'est pour ça, les bibliothèques ont un travail là-dessus, sur la question d'Internet, sur ce service proposé, et ne pas mettre en place de verrou, ne pas imposer d'enclosure justement sur ce commun qui doit être libre D'autant plus qu'on a des arguments juridiques qui nous permettent d'avancer sur cette thématique-là de la défense de ce bien commun. Hein, je rappelle que le Conseil constitutionnel et puis l'ONU, en 2009, en 2010 et 2012 pour l'ONU, ont reconnu l'accès à Internet comme étant un droit fondamental pour les individus. Donc, on peut s'appuyer là-dessus justement pour continuer à promouvoir un accès libre à Internet, à cette ressource, et surtout ne pas mettre en place des systèmes de filtrage, des systèmes d'identification des usagers de l'Internet dans nos structures, parce que la loi ne nous y oblige pas. Et donc, on ne va pas, nous, rajouter un peu l'équivalent sur les œuvres du domaine public, comme l'a dit Silver, rajouter une couche de droit, en quelque sorte, pour contrôler c'est l'accès à cette ressource. Alors, bien évidemment, hein, je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais on est obligé de respecter la loi, fournir des logs si jamais il y a des problèmes qui s'imposent avec les pouvoirs publics, conserver pendant un an les données d'identification, etc. Mais nous, on ne doit pas justement être plus royaliste que le roi et limiter l'accès à cette ressource commune.
D'autant plus que c'est intéressant de voir que certains de nos usagers préfèrent aller se connecter avec du Wi-Fi, avec leur matériel, dans des fast-food, parce que, justement, c'est moins contraint. Et donc, il y a cette chose absolument incroyable où finalement, on a des citoyens qui ont le sentiment qu'un fast-food est plus respectueux de sa liberté d'usage d'Internet qu'une bibliothèque, ce qui est un comble. Ce qui est un comble, parce que tout simplement, nous avons mis beaucoup de contraintes dans l'accès au Wi-Fi, qui est un droit fondamental d'accès, toujours dans le cadre légal qui nous est donné. Mais là-dessus, il faut être très clair, on a le sentiment qu'au bout d'un moment, on dit l'espace marchand, on a un regard très sévère, et au final, on pousse une partie de la population vers les espaces marchands, parce qu'on ne leur donne pas les moyens, tout simplement, d'utiliser l'Internet dans leurs usages quotidiens tels qu'ils voudraient.
Alors, l'autre aspect sur lequel j'aimerais bien revenir, ah oui, juste pour s'appuyer sur... Oui. Toujours en référence à notre manifeste, hein, et l'importance de défendre la neutralité du net comme étant une ressource qui constitue un commun et qu'il faut défendre. L'autre aspect sur lequel on peut revenir en tant que défense et surtout promotion des biens communs, c'est les événements qui ont été organisés dans certaines bibliothèques sous le nom de copy party, c'est-à-dire le fait de venir faire des copies des documents qui sont mis à disposition des lecteurs par les bibliothèques. Alors, c'est tout à fait légal. Hein. On n'est pas dans l'illégalité quand on vient avec son appareil photo ou n'importe quel appareil de reproduction faire une copie d'un CD, d'un magazine ou d'un livre. Hein. C'est encadré par une pratique, par la loi. Il y a le code de la propriété intellectuelle et plus précisément l'article 122-5 qui autorise cette pratique à partir du moment où la licéité de la source, c'est-à-dire le caractère licite, légal, est prouvée. Donc en tant que bibliothèque, je pense qu'on est suffisamment en position d'organiser ce genre d'événement et absolument loin des sentiers de l'illégalité et de la transgression.
À condition, mais je crois que tu l'as indiqué, hein, que la personne vienne avec son propre matériel. Ouais. Il ne s'agit pas de faire des copies avec du matériel mis à disposition par la bibliothèque. Il s'agit bien de copies de sources licites à partir d'un matériel qui appartient à la personne.
Oui. Et à un usage privé.
Et à un usage privé, bien évidemment. C'est dans le cadre de l'exception de la copie privée.
Et surtout, ce moyen-là, c'est la possibilité pour les publics, les lecteurs qui fréquentent la bibliothèque, de s'approprier ces ressources-là et de s'en faire... Leur objet et pouvoir en jouir et en bénéficier. Donc c'est important pour nous d'être, de ne pas hésiter justement à mettre en place ce genre de pratique pour montrer que, oui, en tant que bibliothécaire, en tant qu'institution de lecture publique, on est capable de promouvoir l'accès et l'utilisation de ces biens communs, de la connaissance.
Là-dessus, oui, vas-y, je regarde la scène, je peux voir si... Ok. L'idée, c'est que aussi, là où les copies parties ont été développées, la toute première a eu lieu à la BU de La Roche-sur-Yon, il y a maintenant quoi, un an et demi, à peu près. Mais il y a aussi des CDI dans des collèges qui l'ont fait, parce que c'est un outil pédagogique extrêmement intéressant. C'est-à-dire que, une manière de dire qu'en bibliothèque, tu peux copier un CD ou de prendre en photographie un album ou je ne sais quel livre, c'est une manière de démontrer aussi qu'il y a une alternative au piratage. Et que cette alternative-là, tu peux la trouver dans un espace public tel qu'une bibliothèque, du moment où on est dans le cadre de la loi. Et donc, ça permet aussi de mener une réflexion autour de la copie avec un public. C'est-à-dire qu'on n'est pas simplement un lieu, on est aussi un endroit qui pouvons avoir un rôle de pédagogie autour de ces questions-là.
Et il y a d'autres moyens, peut-être, en avez-vous déjà entendu parler, de mettre en valeur et de s'approprier des communs, de la connaissance, à savoir la Pirate Box, que vous pouvez retrouver sous l'appellation Bibliobox, Biblioboîte, Library Box. Bref. Tout ça, c'est un même dispositif de partage et d'échange de fichiers électroniques. Alors,
Tu peux peut-être expliquer ce qu'est une
ouais,
bibliobox?
c'est.
Ok.
Alors, techniquement, c'est assez simple. Vous avez une photo, vous voyez, c'est un petit boîtier auquel on ajoute une clé USB qui sert d'espace de stockage et qui émet un signal comme un signal Wi-Fi auquel on se connecte à partir d'une tablette, d'une liseuse, d'un ordinateur portable, tout appareil équipé du Wi-Fi, et on accède aux contenus qui sont mis à disposition. Alors, ça peut être des livres électroniques, des photos, de la musique, des vidéos. Tout document qui est soit du domaine public, soit publié sous licence libre, et notamment les licences Creative Commons. Et à partir de ce moment-là, c'est ce que disait Silver, voilà, à travers le dispositif de la Pirate Box, on permet l'appropriation des œuvres du domaine public pour retravailler le contenu, faire un remix, faire des mash-ups, tout ce qu'on veut, mais on s'en sert en vue d'une autre création. Et c'est important pour nous, voilà, en tant que bibliothécaires, de mettre en avant ces ressources-là qui sont qui nous appartiennent à tous et qui est important de s'approprier librement.
L'intérêt hein, des bibliobox, au sein, dans les murs de la bibliothèque, on peut se dire, bon, finalement, ça peut être intéressant, mais là où ça peut être vraiment intéressant, c'est d'occuper l'espace, de documenter l'espace et d'imaginer qu'une bibliothèque met à disposition une bibliobox au moment où il y a je sais pas moi, une animation culturelle dans la ville. Et puis, les gens qui assistent à cette animation culturelle reçoivent ce message d'une bibliobox et la bibliothèque de cette ville met à disposition telle œuvre dans le domaine public qui est en lien avec cet événement-là. On peut imaginer une pièce de théâtre qui se joue dans le théâtre de la ville, et puis on s'entend avec la direction et on met une bibliobox là où il jouait la pièce de théâtre. Et imaginez que la bibliothèque a produit ou met à disposition des biens communs autour du domaine public dans ce domaine-là. C'est de la diffusion, c'est tout d'un coup documenter l'espace à travers ce genre de dispositif. Alors c'est sûr que la terminologie pirate box connote hein, quand même l'idée, mais Bibliobox, effectivement, replace bien l'action de la bibliothèque dans ce domaine-là.
Oui, et puis surtout, en fait, nous, en particulier là où je travaille à Aulnay, on a gardé l'appellation Pirate Box pour conserver l'idée militante engagée
J'entends bien.
de défense de la neutralité du net. Parce que l'idée, c'est vraiment permettre l'accès à tous, sans contrainte, sans verrou, sans ni discrimination. Et on a gardé l'idée, voilà, parce que c'est important de pouvoir transmettre, en vue de l'appropriation, ces communs de la connaissance pour tous.
Voilà, Pierre Doc, ça peut effrayer des tutelles, c'est pour ça
Ouais,
que.
ouais.
Voilà. On est d'accord. Mais vous pouvez mettre à l'intérieur aussi des contenus produits par la bibliothèque, tout simplement. Mais il faut les mettre sous une licence donc qui va vous permettre de les disséminer, de les diffuser. Donc il y a une cohérence.
Un autre moyen aussi de mettre en avant, justement, ces biens communs de la connaissance. Toujours en s'appuyant sur le domaine public. Alors, c'est ce qu'on a fait nous cette année avec Savoir Commun au moment de l'entrée dans la nouvelle année 2013. On a célébré les auteurs qui franchissaient le pas du domaine public, qui sont morts il y a 70 ans. Et sur le modèle du calendrier de l'Avent où on mange des chocolats, et ben là, chaque jour, on mangeait un auteur en anticipant sa venue dans le domaine public. En 2013. Et donc, c'est un moyen aussi en bibliothèque eh ben, permettre de mettre en avant, de dire bah, voilà, tel lecteur, aujourd'hui, on vous fait la découverte de Musil, par exemple, qui vient d'entrer dans le domaine public. On vous propose ses œuvres et vous pourrez les utiliser, les lire, les partager, les échanger, en discuter. Et donc, c'est à travers là encore faire en sorte qu'on transmette un savoir, qu'on à partir des œuvres qui nous appartiennent à tous, parce qu'en soi, c'est pas forcément des communs par essence. Alors, ça a été évoqué, la question des licences libres, et notamment qu'on peut rattacher à des dispositifs comme la Bibliobox, ou même en tant que nous bibliothécaires, on peut produire des contenus sous licence libre pour permettre justement d'alimenter une communauté à laquelle la bibliothèque se rattache et participe, et mettre en avant notamment des œuvres qui ne sont pas forcément des œuvres d'auteurs décédés, donc des auteurs du domaine public vivant. Et c'est le cas notamment de la licence CC0 qui permet à des auteurs de publier leurs œuvres et les placer volontairement dans le domaine public. Donc là encore, ça s'inscrit dans une démarche assez engagée sur laquelle les bibliothèques peuvent s'appuyer pour justement participer à la diffusion et à l'appropriation de ces communs. Et je vais prendre l'exemple d'un auteur qui s'appelle Pouillou. C'est un auteur toulousain, pour l'anecdote, et qui a placé ses œuvres dans le domaine public à travers les licences CC0. Et nous, on peut être le relais de ces contenus-là en s'appuyant sur nos outils, sur les outils qui sont à notre disposition, comme nos catalogues, nos portails, et mettre en valeur justement ces documents. Alors là, un exemple justement de l'œuvre de Pouillou, en précisant bien qu'il est possible de la réutiliser, de se l'approprier, de la partager, de la retravailler. Là, ici, vous pouvez voir la mention licence Creative Commons 0 et la mention domaine public, pour justement continuer à permettre la diffusion de ces ressources-là et ne pas rajouter une couche de droit supplémentaire sur des contenus qui appartiennent à tout le monde et qui sont librement réappropriables.
Oui, vas-y.
Allô ?
Oui.
Oui. Y a un point qui me semble quand même important à souligner, c'est que les bibliothécaires se pensent historiquement, systématiquement, comme des médiateurs d'une offre commerciale sous droit. On constitue des collections, on achète des documents, on achète maintenant des accès, et on cherche à valoriser ces collections. Nous, il nous semble important de déplacer en fait ce centre de gravité-là, qui est cette activité de la bibliothèque, vers non plus la constitution de collections enclos dans des accès exclusifs, que ce soit aller dans le lieu ou que ce soit accéder via identifiant ou via mot de passe, mais plutôt finalement se situer dans l'espace ouvert de l'Internet, non plus être des gens qui constituent des enclos dans lesquels on cherche à faire venir un maximum de personnes, mais plutôt des gens qui se situent en tant que médiateurs de l'océan des ressources du web dans un espace ouvert. Et il y a un point que je n'ai pas tout à fait bien développé tout à l'heure dans le manifeste, c'est le dernier point en fait, qui dit que finalement, la notion de tiers-lieu qu'on emploie un peu à tort et à travers aujourd'hui dans les bibliothèques, pensant souvent, si je caricature, qu'il s'agit de mettre des canapés design et qu'on a un tiers-lieu ou qu'on a juste un espace modulaire, bah pour nous, un espace qui prétend s'appeler tiers-lieu, dans lequel Internet est filtré et sur lequel on doit s'identifier pour accéder au web et dans lequel on n'a pas des moyens qui nous permettent de valoriser l'acte de copie, par exemple, ou l'acte d'appropriation des contenus, ça ne peut pas être des tiers-lieux. Et finalement, le tiers-lieu prend ce sens à partir du moment où il devient un espace dans lequel des communautés peuvent se retrouver pour créer des biens communs de la connaissance. À partir du moment où la politique publique déployée au travers de la bibliothèque vise à favoriser le développement des biens communs de la connaissance en fournissant tout simplement des lieux d'accueil à des gens qui veulent produire de l'information et la diffuser dans le web de préférence. Il faut rappeler quand même que finalement, si on ne fait que valoriser une offre commerciale, on est sur une extraordinaire petite partie de ce qui se produit. Il y a 400 millions d'œuvres sous licence Creative Commons aujourd'hui. Le domaine public, c'est absolument phénoménal. Et on voit très bien dans tout ça que ce qui gêne finalement cette activité de médiation, eh bien, c'est cette notion du sous-droit, en fait. Et qu'une légalisation du partage des œuvres et des échanges non marchands permettrait de fluidifier beaucoup plus la circulation, évidemment, et de légaliser cette circulation, et de replacer finalement dans un rôle où j'aurais beau avoir accès à une infinité d'œuvres, la question systématique qui se pose et à laquelle il faut répondre, c'est pas comment accéder à l'information, puisqu'aujourd'hui les gens accèdent à l'information globalement, mais bien à quelle information accéder et qu'est-ce que je peux faire de cette information, comment je peux me l'approprier, comment est-ce qu'elle peut construire ma culture personnelle. Et en général, les cultures personnelles se construisent en réseau. Et donc, c'est pour ça qu'il nous semble important que les bibliothèques soient des acteurs des biens communs de la connaissance.
Bien. On va vous donner la parole. S'il y a des questions ou des remarques, vous pouvez être, peut-être ne pas partager certains points de vue, ce qui est toujours intéressant à pouvoir entendre. Alors, est-ce qu'il y aurait des questions comme tout à l'heure, on a vu un exemple assez concret de la copie partie qui suscite souvent un peu des interrogations. Est-ce que c'est des choses qui vous paraissent complètement décalées par rapport à une offre de bibliothèque? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a des interrogations? Oui. Le micro arrive.
Oui, justement, sur les copies parties et puis sur la question des... contenu licite, comment vous avez dit
licite, oui.
Voilà. Vous avez parlé de copier donc des livres, des disques et des DVD aussi, peut-être.
Oui, oui, du moment
où. Oui, tout à fait.
Où,
parce que je trouve qu'on se pose beaucoup de questions par rapport à ça, puisque on considère qu'on est lié par des droits, et donc souvent lorsqu'on veut organiser des copies parties, on a tendance à exclure le DVD pour ces questions-là, ouais. Alors qu'il faut dire que c'est tout à fait légal, quoi.
C'est ça, du moment où la source hein, qui est mise à disposition de l'usager a été achetée de manière licite, hein, totalement voilà, licite, ce qui est le cas de pratiquement toutes les sources disponibles en principe hein, dans une bibliothèque, oui. Eh bien, le cadre, la loi, elle le dit très clairement que la copie est totalement autorisée, du moment où la ressource est licite et que cette copie est faite avec un appareil qui appartient à la personne. Donc, ça rentre dans le cadre de la copie privée. Mais vous savez que ce n'est pas simple, hein, puisqu'il y a des règlements intérieurs dans certaines structures qui interdisent cette copie, alors que, voilà, légalement, il n'y a pas de raison. On est là dans une enclosure.
Oui, et puis ce qui est important aussi, c'est que, voilà, ce que tu dis, il y a des règlements qui interdisent la copie, mais les règlements d'une bibliothèque ne peuvent pas être supérieurs à ce que la loi autorise. Donc, à un moment donné, il faut se poser la question du sens de notre activité si on est en fait nous-mêmes dans l'illégalité quelque part et en interdisant à nos lecteurs de copier leurs propres documents sur place.
Je pense qu'on est fragilisé. Si quelqu'un se retourne contre nous, je pense qu'on est fragilisé, très sincèrement. Mais je te donne la parole derrière. L'idée de la copie partie, il ne faut pas le voir comme ça. On fait une copie partie. On voit bien que souvent, les copies parties sont intéressantes quand elles sont mêlées à un vrai travail de médiation, de réflexion autour de la copie à l'heure du numérique, de l'accès au savoir. C'est un levier pour cette réflexion-là. Et là où elles ont été menées, notamment avec des étudiants et notamment avec des lycéens, c'était ça, en fait. Hein. C'est un aspect un peu provocateur, la copie partie, on est bien d'accord. Mais en fait, c'est un formidable outil pour expliquer aux gens, et ça c'est notre métier, hein, on est professionnels de l'information et de la documentation aussi, pour expliquer cet usage qui est complètement dans les gènes du numérique, puisque le numérique, si je veux prêter quelque chose à quelqu'un, je suis obligé de le copier. Hein. C'est dans les gènes, donc il faut expliquer ça. Tu voulais dire un truc
Oui, deux éléments sur les DVD. La restriction aussi, c'est qu'il ne faut pas briser de DRM. Parce que la loi interdit le fait de briser des DRM. Et donc, on voit bien que ces dispositifs, à la base, sont faits pour empêcher ce qui fait qu'une culture est vivante, c'est-à-dire ce qui fait qu'on peut se la réapproprier. Évidemment, nous, on est radicalement opposés à quasiment toutes les formes de DRM.
Oui, c'est important de le préciser, tu as raison. On n'a pas le droit de faire sauter les verrous. Hein.
Vous donnez l'idée à Reusé, donc la bibliothèque de Reusé a organisé une copie partie et c'était l'occasion d'enchaîner par un atelier d'écriture à partir du remix des fragments de documents, d'œuvres qui avaient été copiés par les participants. Donc du coup, coupler cet aspect copie privée à une dynamique de réappropriation, c'est tout à fait important. Voilà. Et donc, les bibliothèques sont plus simplement des diffuseurs d'informations, mais on doit bien être acteur de cette société de la connaissance où on favorise finalement le passage entre une donnée à une donnée, à une connaissance, donc quelque chose qui est approprié, qui est vivant pour la personne qui l'a dans son cerveau.
Oui.
Oui, juste une remarque en plus. Je pense que là, on combine deux choses qui font très peur, la technologie et le juridique. Donc, quand on a peur, on ne fait pas, déjà. Et l'autre chose, c'est qu'effectivement, ça paraît iconoclaste, mais en même temps, je pense qu'il faut s'appuyer là-dessus en termes d'image et de profession, parce que pour le coup, la copie partie, on en a entendu parler dans les grands médias nationaux. Moi, j'en ai entendu parler sur France Inter. Ça a fait parler des bibliothèques, ça les a montrés totalement autrement, alors qu'on en parle quasiment jamais dans ces médias-là. Donc, je pense qu'en termes de positionnement professionnel, c'est important aussi.
C'est voilà. Ça, ça les sort de la mission d'accès qui est fondamentale, mais ça les repositionne comme acteurs de la société du savoir et de l'information. C'est fondamental. Redevenir un infomédiaire, hein, pour aller vite.
Voilà, c'est là où on voit que, en fait, les formes d'action les plus efficaces ne sont pas des actions qui sont forcément tournées vers l'intérieur des bibliothèques, mais qui sont soit tournées vers les médias, soit tournées vers les acteurs institutionnels. Et nous, c'est les deux formes d'action qu'on essaye de privilégier en fait, dans notre action. Voilà, soit des actions médiatiques, soit du lobbying institutionnel pour appeler les choses par leur nom.
Mais on voit qu'on peut chacun, par des petites opérations, le calendrier de l'Avent que tu présentais, qui est une excellente idée, ce n'est pas un dispositif technique très compliqué. Vous ouvrez un blog, vous faites un billet par jour pendant tout le mois de l'Avent. Et puis, une ressource que vous avez repérée sur un site comme Gallica ou je ne sais où, Internet Archive, par exemple, et vous êtes déjà dans la diffusion, la promotion des biens communs. Donc, pas forcément imaginer des choses très, très perfectionnées. On peut vraiment faire des choses assez simples, mais qui nous repositionnent véritablement comme un intermédiaire de confiance, comme un intermédiaire qui est repéré et un intermédiaire engagé, puisqu'on défend aussi une certaine manière d'accéder au savoir.
Les copies parties sont reproductibles, c'est-à-dire qu'on a documenté l'ensemble d'une démarche pour créer une copie partie, le cadrage juridique, les documents de communication. Donc tout est à disposition hein, sur le site de Savoir Commun et sur le site de la copie partie de La Roche-sur-Yon qui est toujours en ligne.
Encore faut-il convaincre les collectivités publiques ?
Oui, mais on est l'un des moteurs hein, pour convaincre. On peut pas, enfin, pour aller vite, on peut pas. Un élu, il est élu, voilà, il n'est pas technicien. Le technicien, c'est nous. Et à un moment, il faut bien qu'on porte aussi un message qui soit totalement clair, rationnel, auprès aussi des décideurs, pour démontrer que ce genre de démarche-là, c'est pas qu'une opération aussi de com, mais c'est quelque chose qui est totalement inscrit dans les missions des bibliothèques. Hein, je vous rappelle le manifeste de l'UNESCO, hein, donner accès au plus grand nombre à la formation et du savoir. Bon, ben ça, c'est complètement dans nos missions. Hein, y a pas de souci.
Oui, puis juste pour rebondir sur la question de convaincre les élus et les décideurs, en fait, on fait ça en permanence pour n'importe quel projet. Dès qu'on veut monter quelque chose dans nos structures, il faut qu'on le justifie, le projet. Ça pose pas de question de le faire dès qu'il s'agit d'un événement directement tourné vers le livre ou je sais pas trop quoi. Alors pourquoi avoir plus de réticence à l'idée d'un projet comme la copie partie ? C'est aussi des problématiques nouvelles à prendre en compte où il faut faire tomber les crispations qu'il y a autour de ces événements un peu subversifs pour certains. Or, pas du tout, on est entièrement dans les clous de la légalité.
Il y a des DRM, nous avons des DRM mentaux nous aussi, hein. Il faut faire sauter aussi ces verrous-là, ce qui n'est pas simple, hein. C'est loin d'être facile.
Et voyez qu'on...
Pardon, ah, DRM, très bonne question. DRM, Digital Rights Management, c'est un petit verrou numérique que l'on met sur un fichier, mettons un livre numérique ou un fichier MP3. La plateforme qui met à disposition le livre numérique met à l'intérieur de ce livre numérique un petit verrou, qui est un petit programme, pour aller vite, un petit script, et qui verrouille le livre, c'est-à-dire que vous le lisez, vous voulez le prêter à quelqu'un, vous ne pouvez pas parce que c'est verrouillé. Eh bien, nous aussi, des fois, on a des petits verrous dans notre esprit et qui vont nous dire on ne va pas faire ça parce que hop, le verrou agit. Donc, il y a aussi un travail à faire pour nous d'introspection et d'essayer de faire sauter certains verrous. Et c'est des fois peut-être plus compliqué de faire sauter un DRM sur un livre numérique. D'autres questions, peut-être ? Oui ?
Bonjour. Pour conserver les logs de connexion sans conserver les noms d'utilisateurs, etc., donnez-nous la formule, ça m'intéresse beaucoup.
Alors en fait, pour être très clair, hein, la loi, enfin vous me corrigez, hein, on ne nous oblige pas à enregistrer le nom et le prénom de la personne qui va se connecter. On vous demande juste d'avoir un dispositif qui permettra à la police ou à un juge de pouvoir mener son enquête pour identifier la personne très rapidement. Vous dites à quelqu'un qui vient se connecter sur une bande Wi-Fi de la bibliothèque, vous pouvez lui donner un numéro 33466 avec un login, voilà. Et puis, vous devez conserver ces données-là. Après, vous n'êtes pas nécessairement obligé de pouvoir indiquer le nom, le prénom de cette personne. Ça, ce n'est pas votre travail. Votre travail est de conserver les logs d'identification pendant un an. On vous n'avait pas demandé la carte d'identité. Vous êtes totalement... là, c'est plus risque que le roi. Donc, à vous de trouver... C'est ça, la difficulté. C'est à vous de trouver le dispositif qui va vous permettre d'enregistrer les logs, les identifiants d'accès à travers votre borne Wi-Fi ou votre accès à Internet. Mais vous n'avez pas, d'autant plus que si vous faites un fichier personnalisé, il faut le déclarer à la CNIL. Enfin bon, voilà. Donc la problématique, c'est est-ce qu'on a un dispositif pour le faire ? Mais ça peut être un cahier. Hein,
Typiquement, les adresses IP des machines aussi. Hein.
Exactement.
Et à partir du moment où on fournit ça aux autorités, nous, on a fait notre part de travail et on n'a pas à interférer avec les compétences d'autres professionnels pour mener une enquête judiciaire.
Juste pour rappeler qu'en fait, on se pose souvent la question par rapport aux usagers non inscrits parce qu'ils ne sont pas identifiés. La BPI accueille depuis des années des usagers non inscrits, à peu près 5000 par jour, je ne sais pas combien de jours par an, et ça pose aucun problème parce que on est dans le total anonymat. On donne aux gens un ticket. Alors bon, le système serait peut-être à revoir, mais en tout cas, l'accès à Internet est complètement anonyme et on ne demande pas des cartes d'identité.
On ne vous demande pas de donner les noms et les prénoms des personnes qui se sont connectées, on vous demande de donner un moyen technique pour pouvoir les identifier. Et ce n'est pas vous qui devez les identifier.
Oui. C'est ça. Du coup, on a exclu tous les Russes, en fait, maintenant. Oui. Ah non, il y a eu des problèmes, mais c'est un problème de sécurité publique. C'est pas un problème de bibliothèque. Donc c'est au service de police de faire leur travail, d'enquêter sur les filières. Nous, on reste dans le cadre légal qui nous oblige à avoir les identifiants.
Le dispositif de la BPI n'a pas été fragilisé par cette affaire. Il a répondu exactement à l'exigence de la loi. Donc, oui, mais ça, c'est autre chose.
Oui, mais...
Nous, on nous demande de pouvoir... voilà. Après...
Pour en revenir à la démarche des biens communs, quel regard vous portez sur des politiques publiques autour des biens communs, notamment sur des territoires? Je pense à Brest en bien commun, par exemple. À Rennes, on se pose vraiment la question de partir sur ce genre de démarche aussi. Quel est votre point de vue dessus?
Merci pour la question, parce qu'on est précisément en train d'organiser une grande opération qui aura lieu en octobre, du 6 au 20 octobre prochain, là, 2013. Une opération qui s'appellera Ville en bien commun et qui est l'occasion de mobiliser, de faire connaître l'ensemble des biens communs. Donc pas uniquement les biens communs de la connaissance, mais aussi les biens communs de la nature. Par exemple, les jardins partagés ou par exemple les gens qui travaillent autour des graines et des semences. Ou les gens qui travaillent autour aussi des logiciels libres, ou encore on a des gens qui s'occupent qui s'intéressent à la gestion et à l'entretien des domaines fluviaux. Donc tous ces ensembles de problématiques, on a essayé de les cristalliser autour d'une semaine d'action. Donc il se passera énormément d'événements. Il y a un site qui existe, qui s'appelle Ville en bien commun, où on explique un petit peu l'esprit de la démarche et chacun ensuite peut organiser des actions et puis les localiser sur une carte pour qu'on ait une grande semaine d'action autour des biens communs de la connaissance. La BPI participera d'ailleurs, on organisera une conférence sur les rapports entre les biens communs de la nature et les biens communs de la connaissance, parce qu'il y a un certain nombre de problématiques qui peuvent sembler communes et qu'il faut explorer.
Voilà, il faut qu'on respecte les délais.
Préciser que l'idée de ville en bien commun vient précisément de la mobilisation de la ville de Brest autour des biens communs. Et en fait, l'idée, c'était de dire, bah, Brest fait ça de manière exemplaire, étendons ce concept et amplifions-le. Et donc, on est effectivement très, très admiratif du travail que mène la ville de Brest à travers ses élus, hein, notamment Michel Briand, qui porte ça depuis des années avec courage, mais absolument pas tout seul. Hein, et les bibliothèques de Brest sont assez mobilisées dans ces histoires-là. Et voilà un territoire qui a compris qu'il ne s'agissait pas de travailler sur le numérique. Vous voyez qu'on ne parle pas de numérique, on ne parle pas d'outils, on ne parle pas de technologie, on parle de bien commun. Et ça repositionne les choses d'une manière où ce n'est pas les trois geeks de la bibliothèque qui s'intéressent à ces choses-là, mais où ça devient un enjeu de politique publique.
Voilà, ça sera le mot de la fin. Nous vous remercions. On peut toujours répondre à vos questions de manière informelle. Après, il n'y a pas de souci. En tous les cas, merci d'être venus aussi nombreux. Et bonne fin de journée.